Êtes-vous des haïsseurs d'humanité? J'espère que non. Mais Tacite, c'est un historien romain du 1er siècle, dans une de ses lettres, il décrit les chrétiens comme des haïsseurs d'humanité. Alors, c'est assez fort, alors que souvent les chrétiens, ça parle d'amour, ça parle de pardon, ça parle de service. Pourquoi les a-t-il appelés ainsi, des haïsseurs d'humanité? Mais il faut savoir que la vie romaine était bâtie sur ce panthéon des dieux et que c'était en rendant culte à l'ensemble de ces dieux, c'est que l'ensemble de la population devait rendre culte à l'ensemble de ces dieux et c'est ainsi qu'on pouvait espérer la paix, la sécurité, la protection. Mais voilà que les chrétiens refusaient d'adorer l'ensemble des dieux. Les chrétiens adoraient un seul dieu. Et en plus, ils ne participaient pas à ces cultes, à ces dieux, ces cultes qui pouvaient être très sensuels, très charnels, très débauchés. Et dans la pensée des gens, ce refus d'adorer l'ensemble des dieux pénalisait la collectivité. Que du coup, ça mettait la population à risque. Si on n'adorait pas un tel dieu, peut-être il y aura une tempête, les moissons ne marcheraient pas. Donc finalement, les chrétiens, en voulant adorer un seul dieu, ils étaient vus comme des malfaiteurs, traités de malfaiteurs, de haïsseurs d'humanité. Les chrétiens étaient à contre-courant, cet aspect. Et on retrouve un peu ça de nos jours. Les chrétiens, autrefois, ne célébraient pas toutes les divinités. Et donc, ils étaient à contre-courant. Aujourd'hui, les chrétiens ne célèbrent pas toutes les identités sexuelles et les pratiques sexuelles, ce qui les met souvent à contre-courant. Et donc, on peut les voir comme intolérants ou des gens qui pénalisent le progrès. Et c'est des fois difficile pour nous à vivre ça. Ce n'est jamais être agréable d'être calomnié, d'être traité de haïsseur d'humanité, ou de homophobe, ou de sexiste, ou de ultra extrême. Donc comment réagissons-nous à ça? Et on se trouve un peu dans la même situation des premiers chrétiens, alors qu'on veut aimer, on veut servir, mais on veut adorer notre Dieu, vivre la sainteté. Alors certains ont essayé de gérer ça avec cette pression des fois, à être à contre-courant, en disant la solution c'est juste simplement aller avec le courant et adopter les mêmes valeurs, les mêmes évolutions de la société, comme ça on n'est plus embêté. Alors, c'est un choix, mais du coup, on n'est plus en phase avec la Bible. D'autres ont voulu peut-être répondre par la calomnie ou par le mépris ou l'enfermement, mais ça ne semble pas non plus être la solution aimante non plus. Et ce matin, nous allons voir que Pierre nous indique une autre voie. On va vivre à contre-courant, mais et cela ce matin grâce à l'Église. Et ça va nous aider à comprendre les temps et réussir les temps que nous vivons. Alors je vous invite à lire le texte suivant dans cet épître que nous étudions ensemble en tant qu'Église, la première lettre de Pierre à ces gens qui sont éparpillés un peu dans l'Empire romain. Il veut les encourager dans leur foi. Et donc nous arrivons ce matin à chapitre 2, verset 4. Et donc je commence là. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, Jésus le Seigneur. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur donc est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc le thème des versets que nous venons de lire, c'est le peuple de Dieu, cette communauté de croyants que nous formons autour de Jésus-Christ. L'Église, et nous ici à l'EBTM, nous sommes une expression, mais l'Église est bien plus grande que ça, traverse le monde et les âges. Et ce matin, j'aimerais vous convaincre qu'une vision glorieuse de l'Église, et aussi une participation active, mais une vision glorieuse de l'Église nous aide à vivre à contre-courant. Nous aide à vivre à contre-courant des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, une vision glorieuse de l'Église nous aide à vivre dans ce monde avec les pressions qui peuvent être autour. Alors, pour vous aider à comprendre cela, je vais vous raconter une petite histoire. C'était ma lecture estivale. J'ai lu l'histoire d'un bateau, un navire, qui était important dans l'histoire. Mais ça remonte un peu. C'était un petit voilier. Au début, c'était un petit voilier qui faisait la navette entre Bordeaux et l'Angleterre en transportant du vin et des textiles. Puis ce navire commençait à prendre de l'âge, commençait à fuir. Et donc, il fuyait. Le mât ne tenait plus très bien. Donc, ils l'ont mis sur le bon coin. En tout cas, le bon coin de l'époque, il y a 400 ans. Ça a été racheté par une association. Et donc, maintenant, le bateau reçoit une nouvelle mission. Et on lui demande de transporter 130 personnes pour une traversée de l'Atlantique. Alors, Bordeaux, Angleterre, d'accord, mais l'Atlantique, c'est autre chose. Et donc, ce bateau, il y avait, le groupe était plus grand que 130, un peu plus grand, donc il fallait un deuxième bateau. Donc, le bateau est parti avec un deuxième qui lui ressemblait, mais le deuxième a fait demi-tour parce que son capitaine sabotait le bateau pour pouvoir retourner en Europe, ne croyant pas la traversée raisonnable. Puis vous connaissez la suite de l'histoire, peut-être. En tout cas, c'est l'origine de mon accent. Ces 130 personnes, l'histoire les appelait des pèlerins, ces voyageurs étrangers, exilés, qui ont dû aller littéralement à contre-courant. Les courants leur étaient contraires dans cette traversée, mais bien plus que ça, les courants de pensée et de liberté de conscience leur étaient contraires en Europe. D'ailleurs, en 1957, tout récemment, ils ont reconstruit une réplique exacte de ce bateau. Et malgré le progrès de la navigation qu'on a fait depuis, ils n'ont pas réussi à faire le même trajet à la même époque de l'année, donc ils ont dû dévier, sinon ils pensaient couler. Donc c'est quelque part, c'était tout un défi à l'époque. Mais la phrase qui m'a retenu dans mon livre, pour revenir au sujet, c'est cette phrase, l'auteur dit « Ce qui les tenait ensemble, ce groupe de pèlerins, d'étrangers voyageurs à contre-courant, ce qui les tenait ensemble, malgré tous les défis et les déboires financiers et les tensions que ce projet leur demandait, ce qui les tenait ensemble, c'est que leurs responsables, qui étaient d'ailleurs des pasteurs, leurs responsables arrivaient à leur donner un sens de grandeur terrestre et du dessein divin. » Donc, ils étaient convaincus qu'ils participaient à quelque chose de grand, avec un dessein divin, et ça les gardait ensemble. Et c'est ce que Pierre fait pour nous ici. C'est vrai que nous vivons un contre-courant, c'est vrai que l'appel à la sainteté n'est pas toujours facile, mais il nous donne une vision grandiose de ce que nous vivons, et ça va nous encourager. C'est vrai que les églises en France ressemblent un peu à ces pèlerins. Ça n'a rien de glorieux en soi. 130 personnes, un peu plus, un peu moins, 130, allez, 300, 350. Avec des petits budgets, des bâtiments trop petits, des bâtiments qui fuient parfois, qui ne paient pas de mine. Dans certaines, carrément, c'est saboté par leurs propres dirigeants. D'autres ballottés par les courants de ce monde. Et à vue humaine, ce n'est pas très glorieux. Tout comme ces 130 personnes ballottées par les courants de l'Atlantique. Mais la suite, c'était toute une nation. Et vous aussi, vous avez une suite encore plus glorieuse. Et j'aimerais vous donner ce matin un sens d'une grandeur terrestre et du destin divin à laquelle vous participez si vous êtes membre d'Église et si vous vivez la vision d'Église telle que Pierre nous le donne ici. Ce groupe que nous formons à l'EBTM, qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ, nous participons à quelque chose de très glorieux. Alors, pour comprendre cela, on va quitter les images, déjà le poisson et puis l'image nautique du bateau, et on va revenir sur terre ferme et parler de l'image qui domine ce texte. C'est une construction, c'est des pierres. Donc, voyons, l'image des pierres vivantes va nous aider à vivre à contre-courant. Tout d'abord, nous allons voir le privilège et l'honneur d'être une pierre vivante dans la maison de Dieu, et ensuite le rôle et la responsabilité d'une pierre vivante dans la maison de Dieu. Tout cela pour nous aider à vivre à contre-courant, à vivre dans la sainteté, dans ce monde qui, des fois, ne partage pas les mêmes valeurs que les valeurs chrétiennes. Tout d'abord, le privilège et l'honneur d'être une pierre vivante. Dans les premiers versets, versets 4 à 8, l'image principale pour décrire ce que nous vivons, pour décrire l'Église, pour décrire la vie chrétienne, est celle de cet édifice. On parle d'une maison, une construction, et pas n'importe quelle maison, mais une maison spirituelle, et avec tout le langage que Pierre maintenant emprunte ici de l'Ancien Testament, ça nous fait penser à une maison en particulier, notamment un temple, à la maison de Dieu. Et Pierre est en train de dire, vous les chrétiens, vous êtes des pierres vivantes qui sont édifiées sur la pierre vivante qui est Jésus-Christ, pour former une maison spirituelle. Et quand on mesure ça, on commence à mesurer l'honneur et le privilège que c'est d'être chrétien. Alors, méditons un instant cette image de pierre vivante. Peut-être une image que Pierre lui-même affectionne de par son nom. Jésus lui a donné ce nom de Pierre. Donc, il doit aimer l'image. Et il le reprend ici pour décrire ce que nous sommes, des pierres vivantes. Rien que la phrase, c'est étonnant. La pierre vivante, ça devrait nous réveiller un peu. Pierre vivante. Normalement, une pierre n'est pas vivante. Une pierre, il n'y a rien de plus mort qu'une pierre. Donc, vous êtes des pierres vivantes. C'est comme dire vous êtes des glaçons chauds. Ah, ça, c'est bizarre. Des pierres vivantes. Dans sa salutation, Pierre avait dit vous êtes des élus étrangers. Ça aussi, ça, des élus, des choisis, des étrangers. Pierre utilise un peu de ces phrases pour nous interpeller. Vous êtes des pierres vivantes. C'est pierres vivantes. D'accord, alors c'est quoi? Et puis il commence en rappelant que Jésus lui-même est la pierre vivante par excellence. Jésus a été traité de pierre ordinaire. Jésus a été rejeté. Jésus a été même mis à mort. Et quand ils l'ont mis dans un tombeau, dans une pierre, ils ont roulé la pierre, tout ça, c'est voilà, une pierre, il n'y a pas de vie. Et puis par sa résurrection, comme l'image du baptême, par sa résurrection, cette pierre-là est devenue vivante. Et puis elle est devenue la pierre d'angle. Alors ça, c'est une image intéressante. Cette pierre d'angle, c'est la pierre sur laquelle tout le reste de l'édifice est calqué. Donc la pierre d'angle fait que tous les angles, si on veut des murs droits, dans toutes les dimensions, il y a la pierre d'angle, et si la pierre d'angle est bien posée, et si la pierre d'angle est droite, eh bien tout le reste de la maison peut tenir ensemble. Et Pierre nous rappelle que Jésus-Christ, depuis sa mort et sa résurrection, depuis tout ce qu'il a dit, qu'il a été confirmé par sa résurrection, eh bien désormais, tout dans cet univers, tout dans notre vie, doit se mesurer, s'aligner sur lui. C'est lui qui donne les angles droits de notre vie. Nous fonctionnons tous avec des repères pour savoir ce qui est droit, pour ne pas être confus. Et si Pierre nous rappelle qu'un seul repère, il y a un seul repère droit qui nous permet de réussir toutes les dimensions de la vie. Un peu en 3D, vous pouvez réussir un angle, mais si l'autre n'est pas droit, la maison ne tient pas. Donc Jésus est devenu ce repère pour nous tous, ce repère dans toutes les dimensions de la vie. On veut s'aligner, se calquer sur lui. Mais après avoir parlé de cette pierre vivante-là, c'est intéressant, Pierre répète en verset 5, « Et vous-même comme des pierres vivantes. » Donc ce qu'il veut établir dans ce texte, c'est qu'il y a une ressemblance entre Jésus, pierre vivante, et vous, pierre vivante. Il y a des ressemblances sans forte. Jésus a été rejeté par le monde, tenu pour rien. Comme verset 7 dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait. Eh bien, ce qu'on rejetait Jésus, comme pierre d'angle même, il dit, ils ont été destinés à cela. Donc Jésus rejeté par le monde, les chrétiens souvent rejetés par le monde, mais il rappelle que même ce rejet de Christ par le monde, ils étaient destinés à cela. Verset 8, ici, heurte pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc même l'opposition est sous la main souveraine de Dieu. C'est un encouragement pour nous que les oppositions, les épreuves, il y a une part où Dieu destine les choses. parce qu'il sait où il va et ce qu'il fait, comme il a fait pour Christ. Donc voilà une ressemblance rejetée par le monde, sous le regard souverain de Dieu. Mais l'autre ressemblance, c'est que cette pierre-là, qui était rejetée par le monde, était précieuse et choisie et utile par Dieu. Et donc, on lui donne une place d'honneur. Et vous aussi, on vous donne une place d'honneur. Vous devenez une pierre dans la maison de Dieu. Quand on faisait la sortie père-fils, mon dernier, en montant, il voulait, à un moment, il s'est intéressé des pierres sur le chemin. Et donc, il a commencé à toutes les ramasser et me les donner. Voilà, tiens, celle-là, je veux. Bon, sur la montée, en montagne, remplir ses poches de pierres. Moi, j'aurais préféré les jeter, les garder, les pierres. Ce n'est pas si intéressant que ça. Mais lui, pour lui, c'était des pierres précieuses. Il voulait remplir ses poches et mes poches pour qu'on garde ses pierres. Eh bien, Dieu, il remplit son cœur avec des pierres que d'autres trouvent banales, comme vous et moi, et il les garde, il les veut. Je veux cette pierre, je veux cette pierre, je veux cette pierre, je veux cette pierre. Amen. Alors qu'il n'y a rien de plus insignifiant et banal qu'une pierre, hein, un champ de pierre. Mais il nous choisit. Donc déjà dans la Bible, plus tard on va parler de Jésus le berger, donc déjà de se faire traiter de brebis n'est pas très glorieux, parce que les brebis ne sont pas super intelligents. Mais de pierre, c'est pire. Vous êtes des pierres. Mais par contre, mesurant le privilège et l'honneur d'être une pierre de Dieu, une pierre vivante pour Dieu, choisie par Dieu. C'était une pierre toute seule, oui, ce n'est pas très intéressant. Mais une pierre qui fait partie d'un mur, et ce mur qui fait partie d'un édifice, et cet édifice, pas n'importe quel édifice, mais la maison de Dieu, là, ça commence à être intéressant. Un vrai privilège, un vrai honneur. Pierre est en train de dire, vous êtes des pierres dans le temple de Dieu. Et à l'époque, les temples étaient des constructions les plus impressionnantes, les plus beaux, les plus durables. Et donc, vous êtes une pierre dans la construction de Dieu, dans la maison de Dieu. Il dit que c'est une maison spirituelle, donc il y a rien de, c'est pas un édifice physique. Là, on parle de manière spirituelle. Mais vous faites partie, vous êtes une pierre dans la maison de Dieu. Et cette maison est plus importante, plus solide, plus belle que le temple de Salomon, que le cathédrale Saint-Sernin, que même le Stade de France pendant une Coupe du Monde, c'est peut-être les temples de nos jours. Et bien, vous êtes une pierre dans un édifice qui est glorieux à ce point. Quel honneur, quel honneur. Une fois qu'on a mesuré l'honneur, maintenant on va parler du rôle et de la responsabilité d'être une pierre vivante dans la maison de Dieu. Déjà, le fait de savoir que je suis choisi par Dieu pour être une pierre dans sa maison, on peut commencer à supporter peut-être l'ambiance à contre-courant, parce qu'on mesure de plus en plus à cet honneur d'être choisi. Et même si j'ai ce rôle à jouer qui n'est pas toujours confortable, c'est un privilège. Mais ensuite, maintenant, ce qui va nous aider à vivre à contre-courant, c'est de se rendre compte ce que c'est d'être ensemble des pierres vivantes. Pensez à un mur. Okay, un mur en pierre ou en brique. Mais en pierre, ça marche très bien. Donc, en fait, chaque pierre soutient les pierres mitoyennes. Donc, une pierre, on prend une pierre, parmi laquelle, cette pierre-là soutient la pierre à gauche, soutient la pierre à droite, soutient la pierre au-dessus et la pierre en dessous. Parce qu'avec le ciment, le béton qu'on va mettre, chaque pierre, c'est ça qui fait la force d'un mur, c'est que chaque pierre soutient les autres. Donc, et c'est réciproquement. Donc, vous prenez cette pierre soutient à gauche et à droite, mais la pierre à gauche, lui, soutient de son tour à gauche et à droite. Donc, voilà, regardez autour de vous. Ça, c'est. Vous êtes des pierres vivantes. Vous vous soutenez réciproquement. Donc, oui, nous sommes des étrangers et des voyageurs dans ce monde, mais nous faisons bloc ensemble. Et c'est là où mon image n'est peut-être pas tout à fait juste, parce que là, il y a un petit poisson contre tous les autres. Mais maintenant, ajoutant la dimension que nous faisons, le petit poisson là tout seul en rose, lui, finalement, il est composé de de nombreux poissons qui vivent à contre-courant. Nous sommes des pierres vivantes et nous faisons bloc ensemble. Et ça va nous aider. Voilà, nous sommes des étrangers et des voyageurs, mais au pluriel, et nous pouvons vivre à contre-courant. Donc oui, dans un mur, c'est facile à dire, chaque pierre en elle-même est insignifiante, ne fait pas grand-chose. Mais en même temps, je vous dis que chaque pierre est indispensable, c'est ça un mur. Combien de pierres, combien de briques, combien de parpaings serez-vous prêts à enlever des murs de votre maison, des murs extérieurs? Vous commencez à enlever des pierres, ça fait des trous, et donc l'hiver, c'est pas très pratique. Les rats trouvent plus facilement une entrée. Donc, combien de pierres êtes-vous prêts à enlever de votre mur, de vos murs à la maison? C'est la conception que Dieu a de vous, de vous tous ici. Donc déjà, le fait d'être ensemble, cimenter les uns aux autres, qu'on est indispensables les uns pour les autres, ça va nous aider à vivre à contre-courant. Et quand l'un est attaqué ou découragé, voilà, il fait corps, il fait bloc avec les autres. Mais encore, ce qui va nous aider à vivre à contre-courant, dans la sainteté, l'obéissance, même quand cela coûte, c'est de se rappeler que nous sommes des pierres vivantes et pas dans n'importe quel édifice. Nous sommes des pierres vivantes dans ce que Pierre décrit ici assez clairement, un temple, une maison spirituelle. Et quel est le rôle d'un temple? Le rôle d'un temple, c'est d'accueillir. Un temple, c'est la maison de Dieu. Et notamment, à travers la Bible, l'histoire de l'Ancien Testament, le temple devait accueillir le Dieu Saint. Donc si notre rôle est d'accueillir ce Dieu Saint, d'être maison pour ce Dieu Saint, comment doivent être nos vies? Souillées ou saintes? Et c'est un peu la force de son argument en disant, si vous avez l'honneur d'être une pierre vivante dans la maison de Dieu, maintenant, soyez une pierre vivante sainte. Rappelez-vous que c'est une maison sainte. Ce mot saint revient souvent. Hein. Vous êtes des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Verset 5, plus tard il va dire en verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Le temple dans l'Ancien Testament, que Pierre dit à ces chrétiens qui n'ont pas forcément d'arrière-plan juif, il dit, vous êtes maintenant, vous êtes l'ultime temple, vous êtes le temple de Dieu, c'est déjà un rôle glorieux. Mais ça rappelle aussi comment devait être le temple dans l'Ancien Testament. C'est vrai que le temple, c'était ce lieu très, très saint. Hein. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Les sacrificateurs devaient être saints. Donc le saint sacerdoce, sacerdoce, ça veut dire la prêtrise, la famille des sacrificateurs. Donc les sacrificateurs devaient être saints. Les sacrifices devaient être purs et saints. Tout ce qui entrait dans cette maison devait être saint. La terre devait être sainte. On parle de la terre sainte parce que c'est là où il y avait le temple. Le peuple devait être saint, donc tous ces appels à la sainteté dans l'Ancien Testament, notamment en lien avec le temple, en s'approchant de la maison de Dieu, donc tout devait être saint. Les sacrificateurs, les sacrifices, la terre, le peuple. Et donc Pierre, en fait, il mélange toutes ces images, le sacerdoce, les sacrifices, la terre, le peuple, et il dit, vous êtes tout cela maintenant, vous êtes d'une manière spirituelle, vous êtes ce que Israël vivait dans le désert avec le tabernacle et puis en terre sainte avec le temple. Il dit, vous êtes ça, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc vous êtes tout ça, tant que des pierres vivantes, mais pour refléter la sainteté de Dieu, pour être cette maison où Dieu, dans sa sainteté, trouve plaisir à habiter. Donc vous voyez, cette responsabilité et ce rôle que nous avons, ça va nous aider à vivre à contre-courant. C'est ça l'Église, on est appelé à être différent du monde, à vivre dans la sainteté, dans l'obéissance. C'est parfois difficile, mais on se rappelle ce grand honneur, ce grand privilège que nous avons d'être maison de Dieu. Bien sûr, ce qui nous aide à endosser ce rôle, c'est de rappeler constamment, je ne, Je ne mérite pas ce rôle. Je ne suis pas moi-même quelqu'un de saint, de pur. J'ai besoin de miséricorde. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, verset 10, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui avons maintenant obtenu miséricorde. Et lorsque je rappelle que je ne mérite pas ce rôle, je ne mérite pas ce privilège, j'étais une pierre morte, une pierre même impure. Et il m'a mis dans ma maison, il m'a mis dans son édifice. Et plus on se rend compte que je ne mérite pas ces places, plus on a envie peut-être de vivre dans la sainteté, même quand ça coûte. Donc oui, c'est fâcheux d'être appelé, d'être traité des haïsseurs d'humanité. Les premiers chrétiens l'étaient. Mais en fait, beaucoup de leur entourage, même dans l'Empire romain, ont fini par voir que la réalité était autre, que ces gens-là avaient cette nouvelle vie et qu'ils formaient une famille ensemble, ils formaient un nouveau peuple ensemble, et un peuple qui s'aimait, un peuple qui vivait dans la lumière, un peuple qui vivait dans la joie, un peuple qui vivait pour l'amour des autres, un peuple qui annonçait par sa vie, par son comportement, par ses cultes, par ses rencontres, par son service, qui annonçait vraiment un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Et beaucoup ont pu changer d'avis et changer leurs préjugés sur ces chrétiens dits haïsseurs d'humanité pour découvrir une famille unie, une famille qui s'aimait, une famille qui marchait dans la sainteté. Et nous voulons que de nos jours, ce soit encore le cas pour nous. Nous sommes des étrangers et des voyageurs ici-bas, mais nous pouvons être des pierres vivantes à la gloire de Dieu et inviter d'autres à rejoindre cet édifice qui a un dessein glorieux, qui a un rôle glorieux maintenant et pour l'éternité. Alors que Dieu nous aide à l'être, à vivre à contre-courant grâce à l'Église que nous sommes. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de célébration que nous avons vécu ce matin, avec ces chants, avec ce baptême, avec ce rappel de ce que tu fais dans le monde entier. Et nous voulons nous rappeler, nous voulons mesurer pendant un instant maintenant, de mesurer la grâce que tu nous as faite d'inclure dans ta famille. Nous ne méritons pas d'être appelés le peuple de Dieu, mais tu nous as inclus, tu as fait de nous des pierres vivantes dans ta maison. Et c'est une maison qui est vraiment glorieuse, c'est une maison qui va durer éternellement, c'est une maison qui va perdurer quand tous les autres projets et constructions humaines ont cessé d'exister. Et c'est pour ça que nous voulons mesurer la grandeur que c'est d'avoir une église, de vivre l'église. C'est vrai, par moments, il y a des... Au vu humaine, c'est pas toujours très glorieux. Ça peut être fatigant, ça peut être... on est entre nous, frères et sœurs, des fois, il y a des désaccords, des disputes, des fois, on n'est pas un très bon témoignage. Mais nous te demandons pardon dans ces choses et nous te prions de nous aider à annoncer tes vertus au monde qui nous regarde et former cette famille, ce bloc ensemble, ce mur solide fait de pierres vivantes et que chacun ici prenne sa place et puisse se cimenter dans l'amour et dans la joie, dans le service pour que tu sois glorifié. Ensemble ce matin, nous nous approchons de Jésus-Christ. C'est lui qui nous tient ensemble, c'est lui la pierre d'angle. Et nous voulons calquer nos convictions, nos idées, nos avis, notre conception du monde et de la vérité. Nous voulons tout calquer sur lui, puisqu'il est celui qui est mort et ressuscité, qui a prouvé qu'il est la vérité. Alors que toute la louange lui revienne encore ce matin. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.